enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, je voudrais vous partager un texte que vous connaissez tous, c'est la multiplication des pains. Avez-vous entendu parler de la multiplication des pains? Je vais vous dire pourquoi je vous pose la question. L'autre soir, j'avais couché mes deux garçons, mes deux plus petits, Benjamin et Michael. Et ça faisait plusieurs jours que j'étais absent. Et lorsque je les ai couchés, Benjamin dit « Papa, raconte-nous une histoire. Mais éteins la lumière. » Alors, j'éteins la lumière pour leur raconter l'histoire. Et il me dit, mais papa, pas une histoire qu'on connaît déjà, hein? Alors je leur dis, mais je vais vous raconter l'histoire de l'apôtre Paul. Alors je dis à Michael, 5 ans Michael, couché au lit dans le noir, et je lui dis, tu connais l'histoire de l'apôtre Paul? Il dit, non papa, j'ai jamais entendu parler de l'histoire de la poutre et l'épaule. La poutre et l'épaule. Du coup, je ne savais plus si c'est moi qui ne sais plus parler ou si c'est nos écoles du dimanche qui enseignent quelques textes que je n'ai pas encore trouvés. Ce matin, c'est la multiplication des pains et j'aimerais attirer votre attention sur le thème qui sera ce matin acteur ou spectateur. Disciple, acteur, ou alors spectateur dans la foule. Et j'aimerais ce matin que ce thème se pose à vous comme une question. Acteur ou spectateur? J'aimerais lire avec vous dans Jean 6. Vous retrouvez ce texte au travers des quatre évangiles. Et il est d'ailleurs intéressant de le lire dans les quatre évangiles. J'ai repris des extraits des différents évangiles pour étoffer le message de ce matin. Au verset 1, nous lisons « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pu pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Père, je veux te bénir de ce que ce matin, tu étends ta main sur ta parole. Seigneur, tu n'as jamais confirmé autre chose que ta parole. Et ce que tu veux ce matin, c'est la confirmer et l'accompagner de ta grâce, de l'œuvre du Saint-Esprit. Père, que ce soit ici, dans ce lieu, en cet instant, pendant que la parole sera proclamée, que ce soit à la maison où les téléspectateurs regarderont cette matinée, je veux te demander que ton onction descende sur eux. Qu'elle descende sur nous dans ce lieu et qu'elle descende sur eux où qu'elle soit et où qu'il et elle regardent cette émission. Nous te le demandons et nous te bénissons parce que tu es fidèle, tu es grand et tu es bon. À ton nom seul soit la gloire. Amen. Nous allons dans ce texte rencontrer deux types de personnes. Et je vais, au long de ce message, les appeler acteurs et spectateurs. Vous allez, au bout d'un moment, eh bien, faire votre propre analyse pour savoir, mais finalement, suis-je parmi les acteurs ou suis-je parmi les spectateurs ? L'Église de Jésus a toujours, eh bien, compté dans ses rangs les deux catégories. Les acteurs et de l'autre côté, les spectateurs. Quelqu'un disait, l'Église ressemble étrangement à un club de football. Dans un club de football, qu'y a-t-il de particulier ? Eh bien, dans un club de football, vous avez 22 acteurs et 80 000 spectateurs. Et le problème, c'est que l'Église de Jésus-Christ, au travers des siècles, a souvent été comme cela. 22 acteurs et 80 000 spectateurs. Le but de Jésus, c'est 80 000 acteurs et peut-être 22 spectateurs. Et je me dis ce matin que si l'Église de Jésus-Christ était composée d'acteurs plutôt que de spectateurs, la France serait déjà évangélisée et gagnée pour Jésus-Christ. S'il y avait plus d'acteurs que de spectateurs, ou voire même des spectateurs qui sont devenus acteurs et qui sont redevenus spectateurs, malheureusement, s'il y avait plus d'hommes et de femmes de ce type-là, eh bien nous connaîtrions, j'en suis convaincu, un réveil. Et c'est pourquoi je prêche dans ce sens-là, parce que je crois que ce genre de message est dans la droite lignée du message qui peut nous emmener au réveil. C'est des hommes et des femmes qui prennent conscience qu'ils doivent progresser. Une étude a été faite par certains spécialistes de la croissance de l'Église, et ils avaient fait le bilan suivant. Une Église qui est en croissance est une Église dans laquelle 70% des membres sont engagés et actifs. Je répète, une Église qui est en croissance est une Église dans laquelle 70% des membres sont non plus des spectateurs, mais des acteurs. Et ce matin, je crois qu'il est nécessaire que nous tenions compte de cela. Toutefois, je voudrais eh bien, également dire à peut-être ceux qui ce matin se sentiraient faire partie de la foule, j'aimerais leur dire qu'aucune des remarques que je pourrais faire n'est là pour vous blesser ce matin, parce que Jésus a aimé la foule. Jésus a aimé la foule, et en règle générale, avant d'être acteur avec Jésus, on commence par être spectateur dans la foule. Pour une majorité d'entre nous qui aujourd'hui sommes engagés, nous avons connu le temps où nous étions spectateurs. Mais le but de Jésus, c'est de vous faire passer de la foule au discipolat. C'est de vous faire progresser. Il vous aime. Et j'aimerais m'adresser à nous tous qui sommes ici présents. Quelle que soit, en guillemets, la catégorie de personnes que vous représentez ce matin, Jésus vous aime. Il nous est dit là, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Ce texte est tiré de Marc, chapitre 6, verset 34, et il est tiré du même contexte, la multiplication des pains. Jésus avait compassion de la foule, et j'aimerais ce matin rappeler, Jésus a compassion de chacun d'entre nous. Mais le but du Seigneur, ce n'est pas de nous laisser dans la foule. Le but du Seigneur, c'est de nous faire sortir de la foule pour que nous puissions marcher avec lui et être des acteurs dans la vie journalière. Amen. Alors, pour ceux qui, bien sûr, désirent progresser, ce message vous concerne. J'aimerais peut-être donner quelques caractéristiques de ce qui fait un spectateur. Dans Jean 6, 2, vous avez cette remarque, une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Ça, c'est une des caractéristiques de la foule. La foule est motivée par les miracles qu'elle voit et dont elle peut bénéficier. La foule, eh bien, est cette catégorie de gens qui vont venir à l'Église parce qu'ils entendent parler de guérison, de miracles, de libération, et eux-mêmes ont déjà ou bénéficié ou vu d'autres bénéficier de l'intervention de Dieu. Vous avez bien des personnes qui viennent à l'Église et dont la motivation n'est que cela. Ensuite, une autre caractéristique de la foule est prête à faire des efforts pour être dans la présence de Jésus. Il nous est dit, dans Marc 6 toujours, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. On les devança. J'étais récemment donc avec le groupe qui était en Israël sur le lac de Tibériade, Et vous pouvez vous rendre compte que là où Jésus a pris la barque, il a coupé le chemin en passant sur le lac, alors que la foule, elle, devait faire le tour du lac. Il fallut donc que cette foule soit pressée d'être en sa présence. Il fallut donc que cette foule aime sa présence pour faire de tels efforts. Et sûrement qu'elle a drainé un tas de gens derrière elle pour arriver à l'endroit où il devait débarquer avant même que le Seigneur lui-même n'arrive. Frères et sœurs, je sais qu'il y a même dans ce lieu beaucoup d'hommes et de femmes qui aiment venir parce que pendant le culte, ils sentent la présence de Dieu et elle vous fait du bien. Et je suis heureux qu'elle vous fasse du bien et je vous félicite de venir. Mais je vais vous dire, il y a autre chose pour vous. Il y a plus que cela. Vous venez dans ce lieu, vous faites des efforts. Pour certains, vous venez de loin parce que vous aimez ce lieu. Vous aimez la présence de Jésus. Lorsque l'onction vient pendant les moments de louange, vous appréciez cela. Mais si vous vous arrêtez à cela, ce serait dommage. Jésus veut vous mener plus loin. Les gens de la foule ont conscience de leurs propres besoins en règle générale, mais pas forcément de celles des autres. Les disciples, par exemple, diront à Jésus, et je le tire de Matthieu, « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » La foule n'avait pas souci des besoins qui allaient intervenir dans l'immédiat. Les disciples, eux, même si leurs remarques ou réflexions n'étaient pas spirituelles, même s'ils n'avaient pas proposé à Jésus de faire un miracle, les disciples, eux, eh bien, avaient une considération pour cette foule. Ils étaient attentifs aux besoins de la foule. La foule et les spectateurs sont des gens en général intéressés par leurs propres besoins. Et il n'y a là aucun jugement dans ce que je dis. Mais ils ne se rendent pas compte des besoins des autres. D'où le fait qu'ils restent spectateurs et ne deviennent jamais acteurs. Parce que le fait de recevoir eux ce dont ils ont besoin les satisfait largement. N'étant pas conscients des besoins des autres, ils ne s'engagent jamais réellement. Une quatrième remarque, la foule se laisse servir mais n'est pas forcément au service des autres. Remarquez, il est dit là, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. La foule consommait, mais la foule ne servait pas. Les disciples serviront, mais la foule, elle, ne servait pas. La foule se laissait servir. Mais les disciples, eux, servaient. Il y avait de leur part, eh bien, un côté actif, un côté engagé. Et chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire que nous tous, en règle générale, nous venons dans ce lieu et il nous semble tout à fait normal que les chaises soient rangées. Il nous semble normal que les chaises soient nettoyées parce que j'aimerais quand même vous dire qu'entre chaque réunion, chaque chaise est briquée. Vous ne le saviez peut-être pas, mais je vois toutes les semaines, semaine après semaine, des frères et sœurs qui pas cirent votre chaise, mais qui l'astiquent avec du produit entre chaque réunion. Alors, nous arrivons ici, et pour nous, c'est tout à fait normal de donner nos enfants plus loin. On s'occupe d'eux, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est agréable. Mais, bien-aimés, est-ce que vous avez déjà eu le courage de vous poser la question, mais si c'est aussi facile, c'est peut-être parce que d'autres servent. Moi, je viens, et les choses me semblent évidentes et simples. Je prends place, je rentre dans la présence de Dieu, et je me réjouis. Mais il faudrait se poser la question, comment se fait-il que je peux venir aussi facilement? Il vous semble logique que la sonorisation marche. Il vous semble logique, eh bien, que la lumière est là et que quand vous arrivez, la température est à point. Mais c'est peut-être parce que quelqu'un s'est soucié de votre confort avant même que vous arriviez. Il y a donc au milieu de nous des acteurs et puis des spectateurs. Et mon souci ce matin, mon désir, c'est que nous allions plus loin parce que, voyez-vous, en finalité, la foule a un comportement tout à fait différent des disciples, surtout à la croix. À la croix, en général, la foule disparaît, il ne reste que quelques disciples. Et même pour les disciples, c'est difficile de tenir ferme. Lorsque l'épreuve vient, lorsqu'une église est agressée, lorsqu'on commence à traiter une église de secte, lorsqu'on l'agresse dans les journaux, à la télévision, etc., en général, la foule prend peur. Elle a toujours peur de s'identifier. Celui qui fait partie de la foule, le spectateur, si jamais il sent que ça chauffe et que ça sent le roussi, ou qu'on pourrait, eh bien peut-être, l'identifier à un groupe qu'on traite de sectaire ou je ne sais quoi encore, là il prend peur. Et puis on ne le voit plus. Ça c'est la foule. La foule change très souvent d'avis et d'opinion. Mais c'est pas ce que Jésus veut. C'est pas ce que Jésus veut. Je voudrais maintenant arriver à ce qu'il veut. Et j'aimerais parler des disciples ce matin. Alors, je veux être bien clair. Dans mes propos, il n'y a aucun jugement. Je crois que j'ai été moi-même dans la foule pendant tout un temps. Mais il y a eu un temps où j'ai pris conscience de cela et où j'ai décidé de changer de camp. En me réjouissant pour la foule qui vient, mais surtout en travaillant dans le sens où cette foule évolue et devient disciple de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus pour installer une religion et pour installer des chrétiens, en guillemets, du dimanche, des traditionalistes qui s'assiedent, qui repartent. Nous sommes là pour que des hommes, des femmes, prenant conscience de cela, s'engagent eux-mêmes avec Jésus-Christ et deviennent acteurs de la vie de Dieu au milieu de nous. Amen. Alors, quelques caractéristiques des disciples. Tout d'abord, les disciples avaient, et dans ce texte nous le voyons, une intimité avec Jésus. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Qui aime Jésus? Quand vous aimez quelqu'un, normalement vous aimez sa présence. Vous aimez sa proximité. Attendez. Si par exemple un fiancé sait qu'il va rencontrer sa fiancée, rendez-vous ce soir à 18h, et vous voyez le fiancé, j'ai rendez-vous avec elle, bon il faut que j'y aille. Hein. Est-ce que ça ne vous semblerait pas un tout petit peu étrange? Moi, quand le soir arrive, je me réjouis de rentrer chez ma femme. Apparemment, vous pas. En hiver, quand il neige dehors, qu'il fait froid, je me réjouis d'aller au lit avec ma femme. Et là, nous allons être au chaud ensemble. Elle vient de m'installer une femme. Il paraît qu'elle a des origines tziganes. Et je dois dire, je le vois, parce que nos meubles déménagent régulièrement. Nous, on n'a pas de caravane, mais ça bouge dans la maison. Puis l'autre jour, je rentre de mission, j'étais fatigué, je veux me jeter sur le lit. Heureusement que je ne me suis pas jeté parce qu'il n'y avait plus de lit. J'ai cherché, le lit avait changé de place. Et elle nous a installés là sous un Velux. Tu es couché, bien au chaud avec ton épouse qui sent le parfum. Et puis au-dessus de toi, tu vois le ciel, les nuages qui défilent. Parfois la pluie qui tombe. Qu'est-ce que j'aime ça? Surtout si je sais que Christian, mon beau-frère, doit se lever tôt ce matin-là et sortir dans la pluie, je me sens encore une fois mieux dans le lit. J'aime sa présence et j'ai besoin de sa présence. Quand je suis parfois absent plusieurs jours, j'ai le temps long après ma femme. Ça, c'est bon signe. Hein, c'est bon signe quand même. Et ma femme a vraiment le temps long après moi. Vous ne pouvez pas savoir ce que je lui manque. Je le dis à ta place, hein, mais... Parce que nous, nous aimons. Frères et sœurs, le disciple a une intimité avec Jésus. Voyez, Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Jésus nous rappelle que c'est dans le secret de notre chambre que le Père nous voit et là, il entend nos prières. Dans le secret, dans l'intimité avec Christ, dans ma chambre. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, ton Père qui est dans le lieu secret te voit. Jésus aime ma présence. Nous chantons toujours, j'aime ta présence Jésus. Mais j'ai découvert une chose, c'est que Jésus aime aussi ma présence. C'est pas seulement au sens unique. Ça va dans les deux sens. Et parfois, j'ai peur que Jésus m'ait souvent attendu dans la chambre et j'ai raté le rendez-vous. Mes amis, la proximité va jusqu'au point où il nous a dit que c'est dans l'intimité que Jésus va tout expliquer à ses disciples. Écoutez, il a dit, il ne leur parlait point sans parabole en parlant de la foule. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples, frères et sœurs, à ses disciples, il expliquait tout en particulier. À la foule, il parlait en parabole. Lorsque tu es dans l'intimité avec Jésus, Lorsque tu prends le temps de prier, de lire sa parole, alors son esprit vient et t'éclaire. Son esprit vient et te parle. Tu te nourris, tu te fortifies, tu le découvres et lui te oint. Parce que l'onction vient de la communion que vous avez avec Dieu. Sans communion avec Jésus, il n'y a pas d'onction. L'onction est le résultat de ma communion avec Jésus. Et lorsque tu es amoureux de Jésus, alors tu aimes être avec Jésus. Je suis parfois surpris, parce qu'il me semble que les croyants n'aiment pas toujours être avec Jésus. La foule aime être là quand il y a un miracle. Mais quand plus rien ne se passe apparemment, la foule n'a plus de temps pour passer de l'intimité avec Jésus. Elle est tellement occupée ailleurs à faire tant de choses. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu veut vous emmener plus loin à maturité. Et Dieu veut vous emmener, et c'est mon désir en tant que pasteur, et je l'ai déjà dit souvent, l'autre jour on en parlait ensemble avec le papa Jean. Je t'ai dit que je te surveille, hein. Et voilà la discussion qu'on a eue. Je disais, mon but en tant que pasteur, c'est pas de vous rendre dépendant de moi ou de nous. Notre but en tant que pasteur, c'est de vous amener à Jésus, que vous le connaissiez, que vous ayez une relation personnelle, que vous vous enraciniez en lui, pour que vous n'ayez plus besoin de nous, non pas dans le sens où on n'a pas besoin d'église, mais que lorsque vous avez un problème, vous connaissiez le chemin vers le Père. Souvent, eh bien, frère, priez pour moi. On ne s'occupe pas du Seigneur, mais quand ça va mal, frère, priez pour moi. Et bien sûr, nous, on doit prier et tout de suite, quelque chose doit se passer. Moi, ce que je désire, c'est vous emmener à maturité pour que le jour où vous avez un problème, vous puissiez dire, Seigneur, je te connais et je m'adresse à toi avec mon problème. Je viens vers toi et parce que lui te connaît, il t'écoute et il te répond. C'est ça la vraie maturité spirituelle. Alors au milieu de nous, nous aurons toujours des bébés spirituels. Et je suis heureux de pouvoir pouponner. Parfois nos bébés font 90 kilos. Hein? Mais ils sont nouveaux dans la foi. Ils ont besoin d'être allaités. C'est les premières fois que j'ai pu allaiter. Ils ont besoin. Mais arrive le jour où tu n'as plus besoin d'être allaité. Frères, sœurs, je vous assure, un jour, eh bien, je n'ai plus été allaité par ma maman. Et aujourd'hui, je ne bois plus au sein de ma maman. Je suis sevré. Je mange moi-même, je suis indépendant, etc. Vous avez des chrétiens qui sont spectateurs depuis 30 ans. Ils viennent toujours encore, pasteur. Croyez pas que ça m'effrayerait, moi? Hein? Si mon fils à 30 ans venait encore têter sa maman? Mais je me ferais du souci, mais il est malade. Il est malade. Imaginez que vous ouvriez le berceau et vous avez un bébé avec une barbe. Mais qu'est-ce que vous feriez? Je suis sûr que vous crieriez, mais ah, quelle horreur! Parce que c'est pas normal. Frère, sœur, combien de temps es-tu au Seigneur? 10 ans, 15 ans, 20 ans? Où en es-tu? Es-tu plus loin aujourd'hui que hier? Es-tu plus loin que lorsque tu es venu? Ou est-ce que tu es encore là, heureux de venir dans sa présence et puis ensuite rentrer à la maison? Tout est terminé jusqu'à dimanche prochain. Je me nourris du message du pasteur le dimanche et en semaine, je fais la diète. Bien-aimé, je crois qu'il est essentiel que nous comprenions cela. Nous voulons vous emmener à maturité, c'est notre but. Le disciple a une mission. Il est dit là, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Jésus ne s'adresse pas à la foule pour qu'elle se débrouille. Jésus va s'adresser aux disciples. Jésus va utiliser les acteurs. Dites-vous toujours une chose, si vous n'êtes que spectateur, c'est que le Seigneur ne vous emploiera jamais. Dieu emploie les acteurs. Certains me disent, frère, pourquoi il ne m'emploie jamais? Mais il ne t'emploie jamais parce que tu n'es pas employable. Il ne t'emploie jamais parce que tu n'es pas à son service et à sa disposition. Mets-toi à son service. Dis-lui, Seigneur, je ne veux plus être... spectateur, je veux devenir disciple et acteur dans ton œuvre, et tu verras qu'il t'utilisera. Et tu verras qu'il t'utilisera, il connaît ses ouvriers. Lorsque Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger, j'aimerais vous dire qu'il y a là une réalité extrêmement importante. Nous avons ce que la foule aujourd'hui a besoin. Ce que la France a besoin, ce n'est pas de changement de politique. On peut changer. On peut passer de gauche à droite et de droite à gauche, on peut s'arrêter au centre en passant par les extrêmes. Ça ne changera rien. Ce que la France a besoin aujourd'hui, c'est d'entendre le message de l'Évangile. À l'époque ils vont distribuer du pain et des poissons. Mais j'aimerais vous dire que nous, nous avons une nourriture pour la foule qui nous entoure. Tes voisins, tes voisines, tes collègues de travail ont besoin d'une nourriture et tu as cette nourriture. Jésus attend que nous la distribuions et il dira donnez-leur vous-même à manger parce que nous sommes les seuls à pouvoir leur donner cette nourriture. Jésus ne peut pas s'adresser au monde, Jésus ne peut pas dire aux païens nourrissez-les parce qu'ils n'ont pas cette nourriture. Nous, nous avons cette nourriture et cette nourriture, c'est Jésus. Il est dit dans Jean 6, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Et Jésus dira, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et c'est pourquoi il dira, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le disciple a une mission, il a un but. Hier soir, le frère parlait de but. J'ai beaucoup apprécié la manière dont il a amené les choses. Avez-vous un objectif, frères et sœurs? Avez-vous un but? Quelqu'un disait un jour, une vie sans objectif est une mort anticipée. Mort à 30 ans, enterré à 70. Quand vous n'avez plus d'objectif, vous êtes potentiellement mort dans tout ce que vous pouvez faire. Nous avons un objectif et nous avons une mission. Apporter le pain qui est venu du ciel, Jésus, à toute la création. Et cet ordre de mission nous est adressé à nous. Jésus dira la chose suivante. Lorsque les pharisiens réagiront par rapport aux disciples, ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Est-ce que tu voudrais que les pierres de ton village crient? Frères et sœurs, nous avons un ordre de mission et Paul dira « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Romains 10, 14. Ce matin, chacun d'entre nous, nous sommes concernés. Alors évidemment, quand tu n'es que spectateur, eh bien tu es, comme je le disais tout à l'heure, dans la foule, tu te laisses servir mais tu n'es jamais au service. Tu prends conscience de tes besoins mais tu n'as jamais conscience des besoins des autres. Le jour où tu prends conscience des besoins des autres, tu ne peux plus te taire. Tu ne peux plus rester inactif. Tu as envie de te mettre en marche. Tu as envie d'annoncer l'évangile. Parce que tu as compris, il y a à la clé le salut d'un homme, d'une femme, de tout un quartier autour de toi. J'aimerais aller plus loin avec vous. Le disciple reçoit une autorité spirituelle que le spectateur ne reçoit pas. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Dans quelques villes que vous entriez, Luc 18, 9. Et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de... Frères et sœurs, l'autorité spirituelle, la puissance de guérison, la puissance du miracle, ne vient jamais sur les spectateurs, uniquement sur les acteurs. Dieu ne oint pas des hommes qui ne voudraient être oints que pour d'autant plus rester à la maison. Dieu voit des hommes et des femmes qui sont prêts à agir. Dieu voit des hommes et des femmes qui, eh bien, sont prêts à s'engager. Dieu voit des hommes et des femmes et les équipes de ses dons dans la mesure où ils sont prêts à porter le message. Souvent, je vois des chrétiens me voir, « Oh frère, prie pour que le Seigneur me donne le don de guérison, le don. » Mais ils ne s'engagent jamais, jamais. Et je sais d'avance, ça ne vaut même pas la peine que je prie, parce que cette prière restera inexaucée. Dieu équipe des soldats, il n'équipe pas des danseuses. Dieu équipe des soldats, amen. Il n'a jamais dit qu'il va équiper le dortoir. Mais il va équiper des hommes et des femmes qui sont prêts à se mettre en route. Le disciple se caractérise également par le fait, et je ne vais pas longtemps m'étendre là-dessus, qu'il exige du disciple, le Seigneur exige du disciple, et bien beaucoup plus que de la foule, entre autres la sanctification et la soumission. Aujourd'hui, c'est fou ce qu'on a des problèmes avec la soumission. C'est fou ce qu'on a des problèmes avec l'autorité. On est en train de donner, on a donné mai 68 à donner naissance à une génération de rebelles et de révoltés. Il est interdit d'interdire. Aujourd'hui, dans les écoles, c'est plus les instituteurs qui corrigent les élèves, c'est les élèves qui donnent des raclées aux professeurs. Mais ce problème-là, vous le retrouvez dans les églises. Si en tant que pasteur, vous dites à quelqu'un non, eh bien vous êtes un mauvais pasteur. Parce qu'on ne supporte plus qu'on vous dise non. On ne supporte plus qu'on vous dise je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, vous n'avez que le droit de donner raison et d'être d'accord. Mais vous n'avez plus le droit de prendre des positions. Pourtant, cette notion d'autorité existe dans la Bible. Elle existe. Elle existe envers le Père. Elle existe envers le Fils. Elle existe envers les ministères. Elle existe, cette notion d'autorité. Et Jésus avait une exigence au niveau de l'autorité et au niveau également de la sanctification. Il dira par exemple dans Luc 14, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Alors il y avait la foule. Mais dans le message, il va eh bien, créer finalement une différence entre les uns et les autres en disant, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne me préfère pas à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. En fait, au travers de ce message, à l'aide de cette foule, se dégageaient deux catégories. Ceux qui étaient prêts à le préférer à toute autre chose, et ceux qui finalement aimaient assister à ce qu'il faisait, mais sans renoncer à rien. Bien-aimés, ce matin, Jésus dira quiconque ne porte sa croix. La croix, c'est quoi? La croix, c'est l'endroit, vous savez, souvent, on loue la croix dans le sens où Jésus est mort sur la croix, j'ai été pardonné mes péchés, j'ai été purifié, j'ai été sanctifié, je reçois la guérison par ses meurtrissures, et tout ça, c'est juste. Mais quand Jésus te dit, charge-toi de ta croix est également l'endroit où Jésus a été crucifié. C'est également l'endroit où il y a eu de la souffrance. Et c'est souvent là qu'il nous dit, mais crucifiez votre chair, crucifiez les désirs de la chair. Et malheureusement, eh bien, il y a trop d'hommes, de femmes qui ne crucifient pas la chair. Leur croix à eux, eh bien, c'est une croix légère. Ils essayent de s'en faire une en polystyrène. Mais cette croix-là, tu ne pourras jamais monter dessus. Frères et sœurs, le disciple accepte la discipline du maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ne criez pas trop fort, je risque de m'effrayer. Hein. Je prends un exemple, tiens, un petit exemple. Je vais prendre un exemple très banal. Allez, par exemple, un frère s'est inscrit au parking. Je vais prendre vraiment le truc le plus simple possible. Vous êtes inscrit au parking, et puis ce dimanche-là, vous êtes de service. Il fait froid, il pleut dehors. En plus de ça, il y a un orateur de passage de qui tout le monde vous a dit le plus grand bien. En vous, il va y avoir un combat. Oh non, moi je ne veux pas sortir. T'as vu ce temps? Ouh. Et puis en plus de ça, il y a un bon orateur. Non, je préfère rester. Je préfère rester. Je me suis inscrit, mais ça ne fait rien pour une fois. Crucifier sa chair dans ce moment-là, c'est renoncer de rester pour sortir. Ça semble simple, hein? Mais je vous assure, quand c'est le moment, c'est pas aussi simple que ça. Crucifier sa chair, c'est parfois tourner le bouton de la télévision. Je vous l'ai déjà dit, j'avais un frère, il m'a raconté ça, un pasteur que je connais bien, c'était un zappeur. Vous savez, avec la télécommande, tchup, 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 tchup. Alors plus tu as de chaînes, plus tu zappes. Et puis il arrive sur une chaîne, et tout d'un coup il y a là une scène. Alors il s'est dit, non, elle ne va pas aller aussi loin. C'est toujours la même chose. On se donne toujours des raisons pour regarder un peu plus, n'est-ce pas? Ça vous est déjà arrivé? Pas à vous, hein. Non, je sais qu'ici, on est vraiment... Vous êtes une bonne église, je dois le dire. Il se donnait des raisons, et puis tout d'un coup, ouah! Elle est allée trop loin. Alors vite, pour se donner bonne conscience, il a zappé. Il est allé sur une autre chaîne et sur l'autre chaîne. En gros, il était inscrit « Dieu te voit ». Il a éteint la télévision. Dieu te voit. Le disciple se rappelle toujours que Jésus est avec lui. Parce que voyez-vous, s'ils ont pu distribuer le pain à l'époque, nous aussi notre pain s'est multiplié. Notre pain s'est multiplié. Quand Jésus était avec les disciples, il n'était qu'à un endroit à la fois, n'est-ce pas? Mais il ne pouvait pas être à Jéricho alors qu'il ne pouvait pas être à Jéricho quand il était à Jérusalem, inversement. Et c'est pourquoi il dit à ses disciples, « Il vous est préférable que je m'en aille afin que vienne le Saint-Esprit. » Aujourd'hui, par son esprit, Jésus est partout à la fois. Il est en toi, il est en moi, il est au nord, il est au sud, il est à l'est, il est à l'ouest. Le pain venu du ciel s'est multiplié. Et nous pouvons donc maintenant l'apporter à tous les hommes où que nous soyons. Je continue et je vais vers ma fin. Le disciple est également serviteur. On se laisse plus facilement servir que l'on sert. Je fais mon mea culpa. C'est vrai que quand j'arrive à la maison, moi j'aime bien quand tout est prêt, m'asseoir, mettre les pieds sous la table. Et ça arrive. C'est agréable, je dois le dire. Je dois le dire. Je suis trop gâté, tu crois? Je pense pas, hein? Je pense pas. Mais c'est agréable. Et c'est vrai que quand j'observe mon épouse, elle, d'abord, jusqu'à ce qu'elle a servi les 8 gamelles, quand elle arrive à la 8e gamelle, la mienne est déjà de nouveau vide, donc elle n'a toujours pas encore mangé. Et je me rends compte, mais c'est plus facile de se faire servir. Mais servir les autres, ça demande de l'effort, ça demande du renoncement. Ça demande parfois beaucoup de patience. Il est dit là, alors que la foule, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Mon frère, ce matin tu es appelé à devenir, non pas spectateur, mais acteur, en devenant serviteur des autres. Serviteur des autres. Moi je souhaiterais que ce matin tu puisses te lever en te disant, désormais Seigneur, je vais tout faire pour pouvoir servir mes frères et mes sœurs. Souvent, lorsqu'on parle de ministère et de service, dans nos têtes, ministère, c'est évangéliste, prophète, apôtre, docteur, etc. C'est ça, servir. Pour beaucoup de chrétiens, servir, c'est être sur l'estrade et prêcher. Mais j'aimerais te dire, c'est complètement faux. Servir ne veut pas dire forcément prêcher. Un appel au service à plein temps ne rend pas un pasteur ou un missionnaire plus appelé qu'un électricien qui vit pour Christ dans son travail journalier. Ça ne fait pas de moi de quelqu'un de plus appelé. Non, non. Tu es appelé à servir et tu es appelé à exercer le ministère du service. Là où tu es, là où tu travailles. Tu es maçon, c'est là où tu es maçon. Ce matin, peut-être tu peux te poser la question, Seigneur, que dois-je faire? Où puis-je m'engager? Alors, si quelqu'un veut s'engager ce matin, venez me voir. Il y a du boulot. Les afficheurs ne demandent pas mieux que d'avoir leurs équipes qui se renforcent. Sur le parking, on ne demande pas mieux que d'avoir beaucoup de frères. Dans les écoles du dimanche, on ne demande pas mieux que d'avoir plus de gens mûrs qui soient capables d'entourer les enfants et qu'ils le fassent avec amour. On ne demande pas mieux que d'avoir plus de personnes qui participent à la préparation de la salle. On ne demande pas mieux que d'avoir plus de personnes qui aident Georges dans l'électricité et partout ailleurs, et je pourrais multiplier les exemples. On ne demande pas mieux que d'avoir plus de personnes qui s'investissent dans la bourse aux vêtements. On ne demande pas mieux. Des serviteurs, non plus des servis. Le disciple faisait ça à une stratégie, et j'aimerais prendre quelques minutes pour cela. J'ai encore 7 minutes 33. 7 minutes 33. Vous ne pouvez pas savoir ce que cet appareil peut me torturer. Mais en même temps, je sais que vous, vous bénissez cet appareil. On coupe. Le disciple a une stratégie donnée par Jésus pour remplir sa mission. Regardez Jésus. Vous savez, souvent on se dit, non, il n'y a pas de stratégie. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Ouh. Il y a des gens comme ça. Ouh. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je me laisse guider. Ouh. Mais alors ils sont tellement guidés qu'ils sont téléguidés et puis ils ne sont jamais présents. On ne peut jamais faire. Jésus était ordonné. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il y a de l'ordre. Il y avait de l'ordre. Il y avait une stratégie. Jésus n'a pas lancé le pain comme ça. Jésus aurait pu prendre le pain. Et va, chiou. Puis les poissons, les sardines, lion. Ah bah, vous riez, ça nous semble logique qu'il ait fait comme ça, hein. Mais on rit. Mais parfois j'ai l'impression que nous, eh bien on annonce l'évangile comme ça. Tiens un bout de pain, chla. Tiens l'autre, je pourrais lui filer un poisson là, tiens le poisson là-haut. Jésus était ordonné, organisé. Frères et sœurs, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il y a une stratégie, et là j'aimerais m'arrêter un instant. Tous les jeunes qui sont dans la salle, est-ce que je pourrais demander à tous les jeunes en dessous de 25 ans de se lever? Levez-vous voir dans la salle. Tous les jeunes en dessous de 25 ans. Non, papa Jean, pas toi, hein? Tous les jeunes en dessous de 25 ans. D'abord, j'aimerais vous bénir de tout cœur. J'aimerais vous bénir de tout cœur. Vous avez de l'importance aux yeux de Dieu. Restez debout. J'ai quelque chose à vous dire ce matin. Dieu a une stratégie pour les jeunes. Et j'aimerais dire, ça va peut-être choquer certaines personnes, ce que j'ai à dire. Mais j'aimerais vous dire, vous les jeunes, priez pour que Dieu vous montre quel est le ministère dans la société où vous êtes envoyé. Quel est le service auquel vous êtes appelé. Les jeunes, faites vos études comme pour Jésus. Cherchez non pas à échouer, mais à réussir dans vos études. Selon les capacités que vous avez, cherchez à être bon, voire les meilleurs. Les jeunes, vous qui êtes là, la Bible dit, tu ne seras pas la queue, mais la tête. Et souvent, vous subissez les études comme si c'était quelque chose qu'on vous impose. Mais j'aimerais vous dire, je crois profondément qu'une des stratégies que Jésus a, c'est de permettre à des jeunes gens et à des jeunes filles de rentrer dans certains milieux où le monde croyant, malheureusement, pendant des années, s'est retiré pour que là, le sel de la terre arrive. Mon frère, ma soeur, j'ai la conviction ce matin. Si tu fais des études en médecine, fais de bonnes études. Je ne dis pas rends-toi malade pour les réussir. Fais-les bien. Nous avons besoin de beaucoup de docteurs qui soient des témoins de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour les médecins qui sont ici et qui sont témoins de Jésus-Christ déjà. Mais il nous faut des jeunes. Il faut dans les hôpitaux des bons chirurgiens, duquel le monde pourra dire c'est un bon chirurgien. Mais le chirurgien pourra dire aussi, moi j'aime Jésus. Qu'il y ait parmi nous, eh bien, des gens qui soient capables de devenir avocats. Vous savez, pendant des années, j'ai entendu, avocat, c'est un métier de menteur. Mais pourquoi? Parce que c'est des menteurs qu'ils font. Le jour où des hommes droits le feront, eh bien, on défendra les gens avec vérité et justice. Avec vérité et justice. Ce matin, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire, envahissons le monde pour changer notre société. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais je crois de tout cœur que l'une des stratégies, c'est que vous soyez à des endroits clés pour que Dieu, au travers de vous, puisse ouvrir des portes à l'évangile là où vous vivez et là où vous travaillez. Amen. Hier soir, j'entendais un chef d'entreprise qui disait la chose suivante. Il disait, j'avais décidé de créer une entreprise pour faire fonctionner mon entreprise selon des principes chrétiens. Eh bien, j'aimerais qu'au milieu des jeunes, il y ait beaucoup de chefs d'entreprise qui se lèvent et qui conduisent leurs entreprises avec des principes qui sont droits, dans lesquels il n'y a pas de corruption. Et je crois que c'est possible. Alors vous les jeunes, faites bien votre travail. Si tu es ouvrier, même si tu fais qu'un BEP et un CAP, moi je t'encourage, j'ai fait qu'un BEP et qu'un CAP. Fais-le le mieux possible. Et souviens-toi toujours, mes études, je l'ai fait parce que c'est ma formation pour servir également Jésus-Christ. Souvent, nous, pour nous former, c'était uniquement école biblique. Mais moi, j'aimerais te dire ce matin, je crois que si tu es bon là où Dieu t'a placé, Dieu t'utilisera comme serviteur. Je bénis Dieu pour ceux qui sont responsables dans la police et ailleurs et qui sont croyants. Nous avions un commissaire chrétien ici, mais je bénis Dieu pour tels hommes. Ils peuvent changer. Ils peuvent changer la face des choses. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais terminer. Luther a dit la chose suivante. Il n'existe pas de vocation religieuse puisque l'appel de Dieu concerne toutes les parties de notre vie. Et Calvin disait, notre travail est le lieu où Dieu nous a placés. Ma demande ce matin, frères et sœurs, dans la stratégie que Dieu emploie, ne démissionnez pas de la société dans laquelle vous êtes. Pendant des années, on a entendu « retirez-vous du monde » et je le prêche également. « Retirez-vous du monde », c'est-à-dire « retirez-vous de tout ce qui vous fait pécher dans le monde ». Par contre, ne démissionnez pas. Ne démissionnez. J'ai un ami qui, il n'est pas là ce matin, mais je parle de lui. Et je ne dirai pas qui c'est. Mais il me disait « Sam, avant j'étais dans des clubs et différents trucs. Quand je suis devenu chrétien, eh bien je me suis retiré de tout, plus de contact. » Il dit « j'arrivais même plus à témoigner, je n'étais plus en contact avec les gens ». Il dit un jour, j'ai dit, maintenant c'est fini. Il me dit, je ne me suis pas réinscrit dans un club parce que j'ai pas le temps, je ne peux pas faire et l'église. Mais chaque fois qu'il y a la fête annuelle du club, j'y vais et c'est moi qui fais les saucisses et les frites. Ça lui permet d'être en contact avec les gens, ça permet aux gens de voir, c'est un gars tout à fait normal. Tiens, il est là-bas mais il mange aussi des saucisses. Tiens, il est là-bas mais il fait des frites. Tiens, il est là-bas, il est capable d'être avec nous. Je dois être capable d'être avec eux sans participer aux mauvaises choses qu'ils font. Est-ce que le sel est fait pour rester dans la poivrière, dans la salière? Le sel est fait pour la nourriture, frères et sœurs, et non pas pour la salière. Et nous, quand nous évangélisons en tant que chrétiens, souvent nous sommes là, t'as pas le droit, t'as pas le droit, tu vas en enfer. Est-ce que t'as rien d'autre à dire? Je vous l'ai dit dernièrement, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et pas le poivre de la terre. Souvent les chrétiens font éternuer la société dans laquelle ils sont. Soyons le sel. Soyons capables d'être avec eux, mais leur montrer que nous sommes différents. Que nous sommes différents. Amen. J'ai pas dit que ça doit tout, vous prendre tout votre temps. Et je termine en parlant aux mères de famille. Les mamans qui sont là. Vous allez me dire, oui, mais moi je suis simplement maman. Couche, culotte, biberon, casserole. Les quatre murs de ma maison. Mes sœurs, si votre ministère est le foyer, vous êtes en train de remplir l'un des ministères les plus honorables. Vous êtes potentiellement un évangéliste en puissance parce que vous allez être en contact d'abord avec votre mari. Et je vous encourage, faites-lui beaucoup de bien. Faites-lui beaucoup de bien. Et nous, les maris, nous voulons vous faire beaucoup de bien. Enfin, chacun a sa femme. Hein. Deuxième chose, mes sœurs, vous éduquez des enfants. Vous allez investir en eux. Et un jour, ils annonceront eux la parole où ils seront. Troisièmement, vous êtes en contact avec les copains de vos enfants. Moi, parfois, chez nous, dans la maison, tout d'un coup, tout. Ah, tu t'appelles comment? Ah, et toi? Ah, et puis, tout d'un coup, une de nos filles, dernièrement, vient et dit, « Papa, ma copine a accepté de venir mardi soir. Est-ce qu'elle a le droit de dormir chez nous ?» Ok, elle est venue, et puis elle a dormi chez nous, et cette jeune fille était touchée par le Seigneur. Depuis, elle lit la Bible. Maman, tu investis dans tes enfants. Ensuite, tu es en contact avec tes voisins et tes voisines. Tu es en contact avec tes voisins et des voisines. Et ensuite, tu es en contact avec la caissière au magasin et avec les gens qui sont dans le magasin. Ne dis pas mon ministère est rien, au contraire, tu vas toucher peut-être plus de monde que les autres. J'ai lu le témoignage suivant et je termine en vous le donnant. Il y avait un groupe de maîtresses de maison qui habitaient un quartier où il y avait beaucoup de grands immeubles. Et ces maîtresses de maison s'étaient fixé un but. Elles avaient un objectif, c'est d'aller accueillir toutes les nouvelles personnes qui arrivaient dans le secteur. Et d'apporter aux malades l'aide dont ils avaient besoin, voire la nourriture quand ils ne pouvaient pas se déplacer. Elles se sont unies, c'était des chrétiennes, elles se sont unies, et au bout d'un temps, eh bien, elles sont devenues, entre guillemets, les pasteurs de leur quartier. Les gens les connaissaient et ils ont amené énormément de personnes à Jésus-Christ. Nous sommes trop souvent confinés dans nos églises. Nous sommes trop souvent là, heureux d'être ensemble. Mais le but, c'est pas que nous soyons spectateurs de ce que Dieu veut faire, mais que nous soyons acteurs avec Dieu. Acteurs avec Dieu. Alors, je termine en te disant, frère, sœur, pendant que nous fermons nos yeux, pendant que peut-être mon frère vient au piano, j'aimerais te dire, et j'aimerais souligner cela, la récompense sera grande. La récompense sera grande. Et dans le texte des multiplications des pains, je vais peut-être relever quelque chose. Très souvent, j'ai entendu que le Seigneur a laissé 12 paniers pour leur montrer leur incrédulité. C'est possible. On peut l'interpréter comme ça. Moi, je l'ai interprété autrement. J'ai voulu voir ça positivement. Et regardez comment je l'ai analysé. Et je crois vraiment que l'Esprit de Dieu m'a aussi donné la pensée. Il est dit, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Frères et sœurs, pendant que nos yeux sont fermés, je vais vous dire ce matin. Les disciples n'ont pas reçu un pain et un poisson. Les disciples ont reçu un panier plein de pain et de poisson. La bénédiction de Dieu sur les disciples qui ont servi était multipliée. Ils n'avaient pas reçu seulement pour le jour présent, Il leur avait donné pour le jour présent et pour les jours à venir. Et ils ne pouvaient non seulement se nourrir eux-mêmes avec leur panier, mais ils pouvaient nourrir leur famille avec ce panier. Ils pouvaient bénir les autres avec ce panier. Dieu leur a rendu beaucoup plus qu'ils n'ont donné. Eux ont à chaque fois donné, et je pense avec crainte, un bout de pain et un poisson. Mais quand tout d'un coup ils ont vu que ça se multiplie, encouragés, ils vont terminer. Et là le Seigneur va leur laisser 12 paniers pleins, un panier pour chacun. Jésus dira à Pierre, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ça c'est la promesse pour toi, c'est la promesse pour moi, tu ne manqueras jamais de rien. Alors en conclusion, acteurs ou spectateurs ce matin, où êtes-vous? Peut-être dites-vous, Seigneur, mais je ne me sens pas capable, je n'ai pas beaucoup de moyens pour te servir. Vous vous le dites peut-être assis sur votre chaise ou derrière votre écran de télévision. Assis dans votre fauteuil, dans votre salon, vous vous dites, mais c'est bien beau ce qu'il dit. Mais s'il habitait là où je suis, avec le peu de moyens que j'ai, il ne ferait rien. Ce matin, frères et sœurs, vous ici présents et tous ceux qui regardent cette émission, ayez le courage de donner vos deux pains, vos cinq pains et vos deux poissons à Jésus et il les multipliera. T'es peu de moyens, il le multipliera. Peut-être ne sais-tu que bricoler. Si tu le donnes au Seigneur, il le multipliera. Et au travers de cela, tu gagneras des hommes et des femmes. Paul a dit à Timothée, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Les spectateurs assistent au combat, mais seuls les acteurs sont couronnés. Les spectateurs assistent au match, mais seuls ceux qui jouent sont couronnés. Frère, un jour, c'est les acteurs qui auront une couronne dans le royaume de Dieu, les disciples de Jésus. Alors je te pose la question ce matin.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.